Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, Cinérama du 4 novembre, une émission qui se déroule de 13h30 à 14h30 sur le 93.9 de Divergence FM, avec aujourd'hui exceptionnellement pas de rediff, ce même mercredi à 18h, pour cause d'événements exceptionnels avec Divergence qui est partenaire de Montpellier à 100% et qui réalise des apéros en live donc sur les lieux du festival. La rediff du coup aura lieu ce samedi. La semaine dernière, nous avons beaucoup parlé du Festival du cinéma méditerranéen, le Festimed, comme Martin aime l'appeler, mais qui est plutôt le Cinémed. Et aujourd'hui, eh bien, on va complètement changer notre orientation, quoi qu'on a ramené plein de choses de ce Cinémed. Alors, on développe le sommaire qui...
Eh bien, bonjour à tous. Pour ma part, eh bien, effectivement, je vais exploiter ce Cinémed avec quelque chose de l'ordre du cinéma espagnol, du renouveau du cinéma espagnol fantastique. Alors, il faut savoir que lors de ce Cinémed, effectivement, il y a eu vraiment une sorte d'hommage, d'honneur fait à ce type de cinéma. Non seulement par une programmation donc assez variée sur les acteurs en tant que réalisateur de ce cinéma, mais également par La Nuit en Enfer qui était complètement consacrée à Iglesia. Donc, moi je vais vous parler de ces deux points durant l'émission et puis je pense que tout le monde aura aussi la possibilité de réagir.
Et on en parlera en deux parties, parce que c'est un gros morceau.
C'est un gros pavé, oui.
Et on intercalera donc une interview de Xavier Giannoli et d'Emmanuel De Vos, son actrice, pour son dernier film à Giannoli. C'est celui qui a fait...
Les
corps impatients. Et puis, quand j'étais chanteur...
Voilà, le dernier avec Depardieu.
Voilà, avec Depardieu. Et qui là présentait son film en avant-première à l'origine, qui sortira le 11 novembre. Donc voilà, on parlera cinéma. Et puis Martin, je te laisse présenter ton invité.
Oui, déjà, bonjour à tous. Alors moi, aujourd'hui, je rebondirai rapidement, si j'ai le temps, sur le cinéma espagnol, en fonction de ce qui nous restera. Mais surtout, j'accueille dans ce studio Soumaïla Colli. Salut Souma.
Salut.
Donc c'est quelqu'un que nous avons déjà accueilli dans Cinérama, il va finir par devenir un véritable habitué de cette émission. Tu es là pour parler un petit peu des rencontres Combat et Liberté, donc des rencontres autour du cinéma documentaire organisé par l'association Access dans le cadre du mois du film documentaire. Donc c'est un événement qui se déroule sur plusieurs villes en même temps. Les projections se déroulent à la médiathèque Federico Fellini, au Diagonal, pour les Montpelliérains. Et vous pourrez également aller faire un tour du côté du cinéma Arc-en-Ciel de Ganges, ainsi qu'à la MJC de l'ODEV, pour faire le plein de docus engagés. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu rapidement le projet et la sélection de films qui vont être diffusés?
Ouais, effectivement, merci beaucoup de m'inviter souvent. C'est un plaisir pour moi et puis c'est tant mieux. Donc, les rencontres cinéma documentaire Combat et Liberté s'inscrivent dans le mois du film documentaire et sont articulées autour du thème des luttes sociales. Il s'agissait de voir comment les luttes sociales résonnaient dans le cinéma documentaire. Donc, nous avons sélectionné toute une série de films où apparaissent des personnes qui sont des sortes de héros au quotidien, des personnes ou des groupes de personnes qui se réapproprient en fait leur environnement dans des situations de crise et qui essayent de le réformer. Alors hier, nous avons eu la projection du film Au-delà de la haine qui parle du pardon et de la lutte contre l'homophobie. Aujourd'hui, il y a Le plafond de verre de Yamina Benguigui sur la question de la discrimination. Ce soir, côté bas, une ambition pour l'Afrique sur une compagnie de théâtre qui essaye de créer dans des conditions très difficiles en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, un pays divisé par une guerre civile. Demain, ce film sera rediffusé à la place de Katanga Business parce qu'il y a des problèmes de copie. Vendredi, il y aura Les Lip, l'imagination au pouvoir. C'est un film et c'est une histoire aussi qui a marqué une certaine forme de lutte sociale en France, où les employés de l'entreprise Lip ont repris l'usine et l'ont refait travailler malgré les plans sociaux et tout ça. Le soir, il y a Souraïda, une femme de Palestine. C'est un film sur la résistance au quotidien d'une femme dans les territoires occupés. Le lendemain, The Take, c'est un peu la même situation que Les Lip, mais en Amérique du Sud, où des ouvriers mis au chômage technique après un licenciement économique se réapproprient leur outil, le refont travailler et prouvent que l'outil est viable à partir du moment où la dimension humaine est omniprésente. Le soir, il y aura en partenariat avec la MJC de l'Odève à la mairie de l'Odève, il y aura la projection d'Alimentation Générale de Chantal Briette, qui est un très très beau film sur un lieu de vie, une alimentation générale avec un personnage qui fait plus que vendre des légumes ou des aliments, qui fait vraiment du lien social dans un univers déstructuré.
C'est bien complet.
Voilà. Donc, bon, alors par contre, pour ceux qui attrapent cette émission, c'est samedi la rediffusion. Il vous restera la séance à l'ODEV, justement, de Alimentation Générale. Il vous restera The Take à 16h. Ça, c'est à la médiathèque Fellini. Et dimanche, La Citadelle Europe.
La Citadelle Europe, tu n'as pas cité.
Voilà, qui raconte une sorte de road movie de deux Béninois qui partent de leur pays pour essayer d'atteindre cette Europe un peu idéalisée. Et voilà, ça suit un peu leur parcours d'embûche en embûche.
Ben, évidemment, on a coutume d'analyser les questions de l'immigration clandestine à l'arrivée, donc en aval. Et là, c'était histoire de montrer un peu le parcours de ces personnes en amont, leur départ, les pérégrinations, les enjeux aussi du départ. C'est souvent les plus audacieux, les plus téméraires qui partent. Et c'est aussi une façon de transcender les statistiques pour donner un visage humain à cette tragédie.
Ben moi juste à ce propos, c'est vrai qu'il y a je trouve c'est personnel, mais il y a beaucoup de documentaires en ce moment qui soit sortent en salle, soit font l'objet de sélections comme ça autour d'un thème particulier. Je voulais te demander, est-ce que voilà, c'est une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que tu penses qu'il y a pas assez de films de fiction engagés, de films de fiction qui abordent ces sujets, et ce qui expliquerait peut-être aussi un certain engouement pour le documentaire de la part des spectateurs. On peut penser à La Vida Loca, dont on a beaucoup parlé en ce moment, puis même des grosses productions sur d'autres sujets comme l'environnement. Voilà, est-ce qu'on manquerait pas un peu de films de fiction engagés, ce qui expliquerait cet essor du documentaire?
Non, je pense plus que bon, il y a beaucoup de fiction engagée, mais c'est pas le même exercice. Le cinéma documentaire est un cinéma du réel. Bon, c'est vrai qu'il y a l'exercice du docu-fiction, mais je pense que tous ces genres sont complémentaires. Le cinéma documentaire est plus un genre de proximité, plus dans le réel, plus dans une approche frontale des choses, et la fiction est une approche romancée des choses. Donc, je pense que il faut un peu des deux, et on y travaille puisqu'on organise aussi Quilombo, Regard sur les cinémas d'Afrique, qui est plus large, qui est dédié aux fictions et tout. Mais vraiment, il s'agissait de s'ancrer dans la réalité du cinéma documentaire, un cinéma aussi qui est sur le retour. Hein. C'est un genre qui est sur le retour et qui est à pignon sur rue actuellement.
Bah peut-être parce qu'il est plus facile à mettre en œuvre aussi, que le cinéma de fiction a besoin de moins de moyens, moins de... Voilà, et qui trouve peut-être aussi plus un public ou au moins un créneau de diffusion à la télé, entre autres, par exemple, sur des formats courts.
Bon, mais voilà. Ça, c'est la vision économique, mais après, il y a peut-être aussi une forme d'immédiateté, de rapidité de l'information, et puis aussi la notion de contre-pouvoir. Il y a des masses médias aussi qui véhiculent certaines formes de stéréotypes parce que ça correspond au format de ces télés. Et puis peut-être que le genre documentaire offre une approche un peu plus approfondie de ces réalités-là, et qu'il y a ce besoin sociétal qui fait que l'auteur rencontre le récepteur.
Mais par ailleurs, hein, au-delà de cette envie pour quelqu'un de réaliser un documentaire, la question économique me semble quand même importante. Moi, je me souviens des deux réalisateurs de Puisque nous sommes nés qui avaient fait un reportage au Brésil. S'ils n'avaient pas eu l'appui de Jamel Debbouze, ils n'auraient jamais pu faire leur long métrage documentaire. Donc, oui. C'est parce que c'est pas acheté par une télé, parce qu'ils ont du mal à trouver le circuit de distribution. Enfin, ce sont des questions importantes.
Ce sont des questions essentielles, mais derrière ces questions-là, il y a aussi quel est le moteur de ces réalisateurs. Je veux dire, beaucoup de réalisateurs rencontrent des producteurs, mais ne vont pas jusqu'au bout d'un film. Et puis, il y en a qui sont confrontés à une réalité au Brésil et qui ont envie d'en témoigner par tous les moyens. Donc, ils ont fait tout le travail de recherche du mécène ou du producteur qui leur permet de faire les films. C'est vrai que la question économique aussi est omniprésente.
Mais il y a peut-être aussi certains films qui ne verraient pas le jour s'ils rentraient dans un schéma économique, justement, et qui n'arriveraient pas à être faits, parce qu'ils ne rentrent pas dans des cases qui collent avec la télé ou avec ce que veulent les producteurs. Donc,
c'est le cas de Chomsky et compagnie, notamment, et de plusieurs films de Pierre Karl.
Mais en même temps, pour peut-être qu'on va clore après ce débat sur l'économique, paradoxalement, il y a un public pour ça. Donc, bizarrement, il y a une demande et il y a un obstacle entre l'offre et la demande. Donc, ça, c'est une antinomie économique, justement.
Bah, d'où l'intérêt de toutes ces manifestations qui mettent un peu à l'honneur le documentaire qu'on voit fleurir actuellement. Alors, on va passer rapidement à ton autre casquette de réalisateur, pour le coup. C'est le film donc, qui passe tout à l'heure au Diagonale à 18h. Voilà, si le problème de copie est résolu d'ici là. Donc, c'est Côté Bas, une ambition pour l'Afrique. C'est un documentaire donc, sur le groupe Côté Bas d'Abidjan. Alors, je vais te laisser présenter un peu ce film. À l'origine, juste le Côté Bas, c'est une forme de théâtre traditionnel malien. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Il s'agit d'un spectacle total qui mêle musique, danse, théâtre et qui se déroulait à la fin des récoltes traditionnellement. Et après les danses, la partie théâtrale se construisait autour de plusieurs improvisations burlesques au cours desquelles les jeunes s'amusaient gentiment des faits et gestes des membres de la communauté qui avaient défrayé la chronique pendant l'année. Donc c'était des caricatures outrées du coureur de jupons, du paysan paresseux, etc. de personnages un peu hauts en couleur qui, eh bien, sans jamais chercher à vexer ou à humilier les personnes concernées, bah, permettait de détendre l'atmosphère en faisant gentiment la leçon aux fauteurs de troubles. Et en 1974, donc, Souleymane Colly modernise un peu cette idée du Côté Bas et surtout l'urbanise en créant à Abidjan le groupe Côté Bas. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de d'où est venue ton envie de faire un film là-dessus ?
Mais déjà, c'est un projet qui est très personnel parce que l'ensemble Côté Bas est la compagnie de théâtre de mon père. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là et j'ai beaucoup aussi été au cœur des réflexions qui sous-tendaient la création de l'ensemble Côté Bas. Ensuite, le pays où j'ai grandi, la Côte d'Ivoire, s'est retrouvé divisé par une guerre civile. Donc à un certain moment, c'est présenté une double urgence, le travail de témoignage sur ce qui a pu être une forme de formation, ce qui est une formation, ce qui est une réflexion sur ce que peut être la culture africaine urbaine avec toutes les mutations socio-culturelles qui existent, et puis aussi la notion de vie et de mort des physiques des personnes. Donc il s'est trouvé qu'en 2005, il y a eu les commémorations des 30 ans de l'ensemble Côté Bas. Donc bon, moi j'ai profité d'un moment que j'avais pour aller tourner des images là-bas et puis essayer de capter les atmosphères, les réflexions, les ambiances et montrer aussi comment ces réflexions-là rencontrent une certaine forme de crise de société et comment l'art peut être un moyen de répondre aux problématiques identitaires parce que c'était aussi les questions d'identité qui étaient au cœur de la guerre civile en Côte d'Ivoire.
Alors en parlant d'ambiance, moi je vous propose d'écouter, j'ai fait un petit montage avec des extraits du film. On va écouter voilà une petite bande-annonce de Côté Bas, ambition, une ambition pour l'Afrique.
Sida maganyarana Aini wura londanu
Lona mere sabalona lu Lona mere
Odini sifalona ye
Lona mere
Sifalona ye
Lona mere
Souleymane s'est toujours attaché à montrer le dynamisme de ces jeunes dans les quartiers, même s'ils ont des difficultés financières, même s'ils ont des difficultés de tous ordres, ça reste des sociétés extrêmement chaleureuses, conviviales, où on sent vraiment quelque chose d'extraordinaire, où on invente les langages, on invente des danses, on invente tout, on invente des formes musicales. C'était vraiment extraordinaire, même si en arrière-fond il y a quand même de la violence. Mais cette violence, je l'ai toujours trouvée tempérée par cet humanisme dont font preuve ces jeunes.
« c'était à la fois, c'est pas un théâtre de rue, c'est un théâtre mais éminemment populaire, et c'est en ce sens qu'il s'adresse au plus grand nombre. J'ai failli dire à la rue, mais au sens, il s'adresse vraiment au peuple.
Donc c'était extraordinaire. Et Souleymane, pour moi, l'ensemble Côté Bas, c'est ça. C'est la richesse, la spontanéité, la joie de vivre, la fureur. C'est presque la fureur de vivre. Et c'est ça, ces spectacles, c'est ce qu'ils montrent.
Chacun d'entre nous a dans son passé un petit instant de Côté Bas. Nous ne pouvions pas manquer ce jour où nous célébrons l'excellence, la constance de M. Souleymane Kony. Je parle de constance et de talent. Et nous sommes heureux aussi aujourd'hui de voir que cet idéal de culture, d'art, est matérialisé à travers le débat.
Voilà, donc sur une musique du groupe Côté Bas, c'est ça, un extrait de spectacle.
Oui, c'est des musiques de l'album WAF d'Ego du Côté Bas.
D'accord. Voilà, bon, ben, donc ça, c'est tout à l'heure au Diagonal Capitole à 18h. Donc, Côté Bas, une ambition pour l'Afrique, un documentaire qui a l'air assez passionnant, donc sur une initiative aussi difficile que enthousiasmante. Voilà, donc je sais pas, pour se quitter, tu as peut-être des projets dont tu voudrais nous faire part.
Il faut juste ajouter que la projection sera suivie d'une séance de dédicace du roman que j'ai écrit qui s'appelle Kalachnikov Blues. Et donc ça sera aussi l'occasion de réfléchir un peu sur les passerelles qui existent entre l'écran et l'écrit.
Très bien. Bah, écoute, merci à toi d'être venu dans cette émission. Et puis on espère t'accueillir prochainement à nouveau pour une nouvelle rencontre, un nouveau film, un nouveau livre. Merci à toi, Souma.
C'est moi qui vous remercie.
C'est Cinérama, vous êtes sur le 93.9 de Divergence FM et on va entamer un des gros sujets de l'émission, c'est le cinéma fantastique espagnol.
Ouais, carrément.
Voilà, donc petite chronique destinée à dresser une sorte de panorama du nouveau cinéma fantastique espagnol, qui était donc à l'honneur de ce dernier Cinémed. Donc concrètement, dans le cadre de cette programmation, il y avait un film documentaire réalisé par un Français, donc Yves Montmeilleur. Le propos donc de ce documentaire était bien sûr de faire une sorte d'autopsie de ce renouveau du cinéma espagnol. Alors j'ai eu la chance donc de rencontrer Yves Montmeilleur, qui en plus d'être passionné de cinéma, journaliste, il a commencé une carrière il y a de ça une quinzaine d'années sur Canal+, dans le journal du cinéma, puis il est passé sur Arte dans l'émission Rive droite, Rive gauche, avant de se consacrer à Trax. Donc il avait cette carrière là d'entamer, et il s'est mis progressivement en rapport donc avec cette passion du cinéma qu'il animait, et entre autres le cinéma asiatique, à la réalisation de documentaires. Et on va le rencontrer ensemble.
J'avais régulièrement l'habitude de me rendre en Espagne dans les festivals de films fantastiques espagnols. Celui bien sûr de Sitges, qui est vraiment le plus gros festival, même maintenant qui est devenu le plus gros festival de films de genre dans le monde d'ailleurs, qui se trouve à côté de Barcelone. Et puis la Semana del Terror de San Sebastián, la semaine du cinéma d'horreur de San Sebastián. Et parce que déjà pour l'ambiance, c'est intéressant de savoir que bon, il y a plein de festivals bien sûr en France et ailleurs. Il y a le festival de Gérard May, bien connu pour tous les amateurs de cinéma fantastique. Mais ce que j'ai trouvé formidable dès le début dans ces festivals, c'est de voir l'importance qui était accordée au public. C'était incroyable. Il y avait une ambiance, et toujours d'ailleurs, une ambiance extraordinaire. sauvage presque du public, avec les réalisateurs, avec les films, enfin tout ça faisait vraiment un corps. J'étais vraiment fasciné par cette ambiance. Je m'y rendais et j'ai vu un petit peu aussi à ce moment-là, parce que je suivais tout ça depuis maintenant 13-14 ans, j'ai un petit peu assisté à cette émergence en fait de tous ces nouveaux réalisateurs. J'en ai vu certains comme Paco Plaza, le co-réalisateur de REC qui venait présenter ses premiers courts, Jaume Balaguerro, le deuxième comparse qui montrait ses premiers longs, tout ça. Donc j'étais déjà amené à les suivre, à les interroger, à les filmer. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas faire un documentaire maintenant qu'ils sont bien établis, maintenant qu'il y a un vrai courant. Il y a un vrai courant sur ce nouveau cinéma. Pourquoi pas, effectivement, faire quelque chose de plus construit, concret, en repartant de mes premières archives jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, l'idée est vraiment née parce que j'avais, encore une fois, j'étais un peu témoin de cette émergence.
Donc voilà, c'est le 8e documentaire donc d'Yves Montmeilleur. Comme je disais juste avant, il a réalisé beaucoup de documentaires sur le cinéma asiatique, coréen, japonais. Il s'est aussi intéressé au cinéma français. Il avait un petit faible également pour Juliette Binoche, notamment. Alors, avec ce documentaire, finalement, là, il vient un petit peu de l'expliquer. Il s'intéresse à quelque chose de complètement différent pour lui par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à présent, donc le cinéma espagnol. Et c'est effectivement par rapport à sa présence dans de nombreux festivals espagnols qu'il a pu rencontrer ses réalisateurs. Donc ces réalisateurs, qui étaient d'ailleurs présents par leurs films sur le Cinemed, je pense à Nacho Cerdá, à Amenábar, à Balaguerro, il y avait La Iglesia avec sa nuit en enfer, Paco Plaza, Bayona et puis bien sûr Del Toro. Voilà, c'est un ensemble de réalisateurs qui ont participé à ce renouveau. Yves Montmeilleur va nous expliquer en quoi il consiste et ce qu'il explique.
C'est toujours compliqué parce que, évidemment, c'est une des premières questions que je posais à tout le monde, eux étant vraiment à l'origine, tous ces réalisateurs étant à l'origine de ce phénomène du nouveau cinéma fantastique. Et bizarrement, ils ont eux-mêmes beaucoup de mal à prendre une distance par rapport à ça, essayer d'expliquer pourquoi, tout à coup, il y a eu cette résurgence du cinéma fantastique espagnol. Sachant, bien évidemment, on parle de résurgence parce qu'il y a eu vraiment une tradition du cinéma fantastique en Espagne.
Avec Jess Franco, par exemple.
Voilà, dans les années 60. Et puis, le genre s'est un petit peu tari, fin des années 70, pour à nouveau renaître en début 90 avec toute cette génération. Donc, il y avait une assise, il y avait un embryon qui était là, qu'ils ont à nouveau, renourri. Et je pense tout simplement que toute cette génération, déjà, c'est des fans de films de genre, quasiment tous, ou bien des gens qui ont utilisé le cinéma de genre, mais pour parler d'autre chose, que ce soit de politique, de culture, comme d'ailleurs tous les grands films, pour moi, tous les grands films de genre sont avant tout, enfin le genre étant un véhicule, évidemment, pour parler de thèmes d'aujourd'hui.
De critique sociale, de satire.
Tout à fait. C'est d'ailleurs un peu pour ça. Et puis bien sûr, moi, ce qui m'a tout de suite vraiment intéressé, excité, c'est la facture esthétique de tous ces films qui étaient irréprochables, enfin un vrai travail pour de jeunes garçons qui débutaient pour la plupart, qui faisaient leur premier film. C'était très étonnant de voir une maîtrise parfaite de cette esthétique, de ce travail du plan, etc. Presque, j'allais dire, c'était presque aussi quelque chose un peu formaliste, quelque chose, une espèce de rétro-avant-garde, je dirais, parce que les thèmes étaient nouveaux, mais en même temps, une facture qu'on avait eu l'habitude de voir dans un cinéma classique, que ce soit américain ou espagnol, mais qu'ils ont su un peu transcender par les thèmes qu'ils ont abordés.
Voilà, donc c'est vrai que dans ce cinéma, il y a une facture esthétique assez importante qui rend l'appréhension de ces films parfaitement faisable. Et c'est assez intéressant justement de comparer ce cinéma espagnol, ce renouveau du cinéma espagnol, qui allie donc forme et fond d'une habile manière avec un renouveau également du cinéma asiatique dont moi je suis fan, et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir en parler assez aisément. Et c'était intéressant donc de rencontrer Montmeilleur encore une fois parce que lui aussi s'est intéressé à la chose. Donc dans ce cinéma asiatique, on va voir évidemment le cinéma japonais avec par exemple
Kyoshi
Kurosawa. Pas forcément Kyoshi Kurosawa, c'est vrai que là c'est assez particulier, mais plus vraiment dans la veine fantastique, horrifique. Il y avait Hideo Nakata avec Ring ou Darkwater qui présentait quelque chose d'assez fin avec un gros travail de forme, et également sent eh bien la présence un peu du surnaturel comme existant dans la dans les sociétés en fait asiatiques. Donc c'est assez intéressant de constater que au niveau du cinéma espagnol, il y a aussi un peu de ça. Il y a pas vraiment de surenchère de violence gratuite dans ce cinéma-là. Il va y avoir au contraire plutôt une recherche en fait au niveau de la famille, au niveau de la maison. Il va y avoir quelque chose donc de beaucoup plus intime, qui quelque chose qui coexisterait avec la vie. Donc ça également, Yves Montmeyer a une opinion assez aiguisée là-dessus et il nous en parle.
Est-ce que, à ce propos, est-ce que vous pensez qu'il y a justement un échange ou une sorte de communion entre un renouveau également du cinéma asiatique et qui plus est japonais et ce cinéma espagnol? Je pense par exemple au film d'Hideo Nakata qui reprennent un peu ces mêmes ambiances un peu claustrophobiques qu'on retrouve très couramment dans cette nouvelle vague espagnole.
Alors vous avez tout à fait raison, parce que c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec ce renouveau du cinéma fantastique espagnol et puis le nouveau cinéma asiatique qui est aussi un cinéma de genre essentiellement. Et j'aurais tendance à les comparer tous ces réalisateurs, Paco, Jaume et même évidemment des gens comme Amenabar, voire Alex de la Iglesia, à ce qui se passe en Corée surtout. J'aurais tendance à vraiment les rapprocher du cinéma coréen. Déjà parce qu'il y a des choses évidentes qui vont de soi quand on compare ces deux cinématographies. C'est d'abord effectivement le renouveau également du cinéma coréen qui arrive dans les milieux des années 90, après une grande une période de dictature de la Corée du Sud. Même chose finalement quand on regarde en parallèle avec ce qui s'était produit en Espagne. Bon, effectivement, cette génération est née après le franquisme, mais mine de rien, chacun sort d'une période trouble, claustrophobique, agitée, qui est la dictature. Et deuxième chose, c'est intéressant de noter à chaque fois dans les deux pays que tous ces réalisateurs en fait sont d'une même génération, pas simplement les réalisateurs d'ailleurs, mais aussi les techniciens, les producteurs, parce que c'est important d'avoir tous ce même âge, etc., d'avoir les mêmes envies, les mêmes goûts. Et aussi bien du côté coréen que du côté espagnol, il y a une notion vraiment de famille. Il y a une espèce de structure ADN. Je veux dire, ils sont tous dans les mêmes thèmes. Ils s'aident, chacun, un va lire le scénario de l'autre. Il y en a même un qui va apparaître en caméo dans un des films. Tout ça pour dire qu'ils sont vraiment très liés. C'est vraiment un côté familial que je trouve aussi bien chez les Coréens que chez les Espagnols. Et puis évidemment, comme vous le dites, esthétiquement, etc., ce jeu, cette élaboration de cette montée d'angoisse, de ce non-dit, de cet indicible, à Lovecraft, en fait, tout ce climat souterrain, etc., et ces apparitions, ces jeux qu'on retrouve aussi bien dans le cinéma coréen que chez les Espagnols.
Alors, après, il y a encore un autre type de cinéma une autre nationalité de cinéma qui, ces dernières années, connaît aussi une sorte de renouveau dont il est très intéressant aussi de parler. C'est d'une part le cinéma anglais, avec notamment Neil Marshall, et puis aussi le cinéma américain. Donc, de la même manière, Yves Montmeyer avait une opinion là-dessus.
Il y a également un cinéma américain qui est relativement intéressant, qui innove un petit peu. Là, par exemple, en ce moment, il y a la projection dans certaines salles de The Descent 2, qui est en soi une mauvaise suite. Mais par contre, le premier film de Neil Marshall a porté quand même un certain renouveau dans le genre. Je pense également à James Wan, qui avait été l'auteur du premier Saw, qui en soi a porté aussi quelque chose d'assez intéressant. Je parle pas après des sequels qui, elles, étaient beaucoup plus bancales. Ce cinéma américain, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez aussi quelque chose dans votre esprit pour le comparer avec ce renouveau du cinéma espagnol?
Absolument, parce qu'il y a également un renouveau du cinéma fantastique anglais. Donc on parlait de celui le plus connu, qui est The Descent de Neil Marshall, mais il y en a plusieurs. Là, on assiste au même phénomène peut-être qu'en Espagne, dans le sens où il y avait aussi une tradition du cinéma fantastique très forte en Angleterre dans les années 60-70 avec les studios de la Hammer. Il y avait cette base et là c'est reparti. Donc c'est vrai qu'on peut aussi trouver des parallèles, et évidemment le cinéma américain qui est aussi une très grande influence de tous ces réalisateurs espagnols, évidemment, qui ont tous été nourris aussi à tout ce cinéma commercial et qui les témoignent. Et je crois qu'encore une fois, plus que ce soit des gens comme George Romero ou autres, où ils avaient compris qu'il y avait au-delà du genre pur et dur, il y avait aussi des messages qui étaient en soulignage comme ça, liés à la politique, etc. C'est-à-dire que le cinéma, effectivement, fantastique, ne pouvait pas être juste un genre gratuit, pur d'entertainment, mais qu'on pouvait y faire passer plein de choses, plein de messages. Et ça, je crois qu'ils l'ont compris en regardant tous ces films américains, d'ailleurs, qu'ils ont découvert en DVD, mais qu'ils ont aussi découvert dans les festivals dont je vous parlais, c'est-à-dire CJS et le festival de Saint-Sébastien, qui était pour eux un espèce de gros creuset où ils ont pu se nourrir et s'approcher de toutes ces cinématographies qui, par la suite, a décidé de ce qu'ils allaient
faire. La première question qui vient à l'esprit est : s'agit-il de cannibales ? La réponse est non. Le cannibalisme, au sens étymologique du mot, désigne des variétés d'humains qui dévorent leurs semblables. Or, nous sommes en présence de créatures inhumaines qui ne se mangent pas entre elles, mais qui s'attaquent aux humains. C'est là que réside toute la différence. Les zombies ne se nourrissent que de chair vivante. Leur cerveau, qui fonctionne au ralenti, les rend incapables de raisonnement. Il ne leur reste plus que de vagues souvenirs, ou plutôt des réflexes, qu'ils tiennent de leur vie antérieure. Selon certains rapports, il leur arrive de manier des outils, mais de façon primitive, comme les animaux, dont certains, je vous le rappelle, usent de massue ou de gourdin pour frapper. En résumé, les mouvements de ces créatures ne sont guidés que par l'instinct, leur unique but étant la recherche de la nourriture qui leur permettra de survivre. Et n'oubliez pas que chacune de leurs morsures crée un nouveau zombie. Je conviens que ce phénomène est troublant, mais il ne faut pas nous apitoyer à la pensée qu'ils ont pu autrefois être des amis ou même un de nos parents. Ce serait une erreur grossière. Non, ils n'ont plus ni cœur ni entrailles, alors sachons être impitoyables, détruisons-les sans hésitation.
Voilà, petit extrait de Zombie de Romero, donc c'était pour illustrer un petit peu ben, justement ses influences, parce que au tout début là de ces sons, il était question aussi des influences de réalisateurs des années 60-70 comme Jess Franco par exemple, qui ont inspiré, il y a Serrador aussi, qui ont inspiré donc cette nouvelle vague de réalisateurs espagnols. Alors justement, puisqu'on parle de ces petits rigolos, il est question de revenir sur le point commun entre chacun d'eux, parce que c'est vrai que autant sur la forme et donc sur cette montée d'angoisse qui est générée et qui est très bien rendu. Il y a aussi sur les thèmes évoqués quelque chose d'assez redondant. Bon, redondant, pas forcément dans le sens péjoratif du terme, je veux dire par là que ça peut être des choses qui se ressemblent. Il y a à chaque fois toujours une originalité bien particulière, bien définie, qui fait que on se prend au jeu sans problème. Donc dans ces exemples, j'en avais parlé aussi tout à l'heure un petit peu, il y a effectivement cette maison qu'on retrouve régulièrement, une maison. Après, c'est vrai que c'est une figure du cinéma d'angoisse qui remonte à bien longtemps. La maison hantée, le manoir, c'est des choses donc bien connues, mais c'est assez présent justement dans ce renouveau du cinéma espagnol. Et puis il y a aussi la figure de l'enfant, donc l'enfant que les parents vont perdre, l'enfant qui est
orphelin.
Oui, voilà, par exemple. Donc en gros, c'est des thèmes comme ça qui vont finalement se rejoindre ces réalisateurs espagnols. Et on écoute Yves Montmeilleur qui nous parle encore de ces points communs, justement.
C'est d'ailleurs très présent dans votre documentaire, donc Viva la Muerte, cet aspect justement du festival. On voit que vraiment vous êtes rentré dans les arcanes de leur propre organisation. C'est assez intéressant. Par rapport à cette pléthore de réalisateurs comme Balagueró, enfin tous ceux que vous avez cités, Nacho Cerdá, quel est le point commun finalement vous l'avez déjà évoqué, mais peut-être ça serait intéressant de revenir dessus. Point commun de ces réalisateurs finalement.
C'est surtout une vraie idée, enfin une obsession. C'est le titre que j'ai choisi pour mon documentaire Viva la Muerte. Bon, avec les références à d'autres films qui ont lieu ou Autopsie du nouveau cinéma fantastique espagnol, j'ai insisté sur l'idée de la mort parce que c'est vrai que c'est une obsession de la mort, du macabre. Mais en même temps, moins le macabre tel qu'il apparaissait dans le cinéma fantastique de Mario Bava, etc., qui était quelque chose de très esthétisant. Là, on sent aussi, il y a l'idée du macabre dans le sens de la pourriture, de la pourriture de la chair, qui s'apparente à la pourriture de la société, des idées et autres. Il y a vraiment une obsession de la mort physique, et aussi de la mort des idées, de sentir une espèce d'apocalypse prochaine, etc. Ça les obsède. Il y a vraiment, et ça tous, même alors, il y en a qui arrivent à le formuler, à expliquer un petit peu d'où ça vient, puis d'autres, en fait, voilà, qui n'ont pas encore fait, on va dire, leur analyse au regard de ces films. Mais ça, c'est évident. C'est quelque chose, même quelqu'un comme Alex de la Iglesia, qui, lui, a tendance à jouer sur le ressort de la comédie noire, du gore, mais en y regardant bien, c'est aussi, il est vraiment hanté par toutes les mêmes questions, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de typiquement espagnol.
Ne me jugez pas sur ce que vous voyez. C'est du provisoire. Le minimum juste pour dormir. Je ne suis pas encore installé. Je suis un homme élégant. Qui n'aspire qu'à vivre dans un monde élégant. Est-ce trop demandé? À tout prendre, je préfère encore ne rien avoir que de me farcir la déco du commun des mortels. Un jour, je partirai loin d'ici et j'aurai la vie que je mérite. Vous savez quel est leur problème à tous ces gens? Leur problème, c'est qu'ils n'ont aucun goût. Regardez-moi ces fringues, c'est monstrueux. Oh, je sais ce que vous allez dire, qu'ils n'ont pas les moyens. Croyez-vous que ce soit le prix qui nuise à cette veste? Pour ma part, je préfère mourir que de devoir vivre dans la médiocrité, comme la majorité de la populace. Je sais quel appart je veux, quelle voiture je veux. Je sais même déjà où je vais l'acheter, et combien elle me coûtera. 40 000 euros plus TVA. Option cuir, boîte auto-liptronique, GPS incorporé. Faut arrêter de penser, il faut agir. Si t'espères que ça te tombe tout cuit dans le bec, t'es foutu. Faut pas compter sur la chance. C'est à toi de la provoquer au quotidien. Les opportunités sont là, sous notre nez. Il faut oser les saisir quand elles passent. Moi, j'ose. Quand je veux ardemment quelque chose, je me sers. C'est ce qui fait le malheur de tous ces gens. Ils vivent entourés de choses désirables, mais ils n'ont pas les couilles de mettre la main dessus.
Et dans votre documentaire, on voit la présence de Guillermo del Toro. Alors ça, c'est intéressant parce que donc, Guillermo del Toro, ben, il est mexicain. Alors bon, c'est vrai que voilà, il y a dans ses films une grosse résonance espagnole. Parlez-nous quand même un petit peu de sa présence dans le courant et évidemment dans le documentaire.
Oui, on pourrait dire, d'ailleurs je l'ai montré un peu comme ça d'ailleurs dans mon documentaire, Guillermo del Toro, c'est un peu la figure, un peu c'est le parrain, quelque part, le godfather de toute cette nouvelle génération, qui est à peine d'ailleurs plus âgé, parce qu'il n'est pas si âgé, Guillermo, il doit avoir un début quarantaine, mais alors, Guillermo qui est donc mexicain, qui lui-même est dépositaire d'une cinématographie riche en fantastique. Le cinéma mexicain des années 50-60 était extrêmement, c'était nourri d'un fantastique, aussi d'ailleurs lié à la mort avec ces grandes ferias mexicaines qui ont nourri son cinéma et tout. Et il s'est avéré que Guillermo s'est retrouvé comme ça contrebalancé entre le Mexique, l'Espagne, les États-Unis aussi bien sûr, où il a fait des films, mais il a toujours gardé un lien très fort avec l'Espagne. Il a d'ailleurs réalisé un de ses films qui fait partie de ce mouvement du nouveau fantastique espagnol qui est Les Chines du Diable, Espinoza del Diablo, et produit d'ailleurs par Almodovar. Et en fait, il a décidé quelque part d'entraîner un peu, comme c'était celui qui s'est fait un peu le plus facilement connaître à l'extérieur de l'Espagne. Il était un réalisateur qui est connu dans le monde entier par ses gros films, ses entre guillemets blockbusters mondiaux. Et ça lui a permis, en fin de compte, d'accompagner vraiment ce qui se passait en Espagne au moment où tout ça était embryonnaire. Et il a joué vraiment en espèce de machine. Il a aidé, en fait, toute cette génération à éclore, quoi. Il les a vraiment aidés, il les a conseillés. Et d'ailleurs, tout le monde a une très grande estime en Espagne pour Guillermo del Toro, pour ce qu'il a fait vraiment. D'ailleurs, il est par exemple, producteur de L'Orphelinat, hein, par exemple. Et je crois qu'il va continuer à suivre tout ce qui se passe. Il est très sincère. Et moi, je le vois bien en discutant aussi bien avec les réalisateurs de Rec et autres, qu'ils ont un immense respect pour avoir un peu fait connaître et aider concrètement, financièrement et dans les idées toute cette génération à éclore.
Alors, quelque chose du point de vue de la cinéphilie, Guillermo del Toro, il a fait Chronos, il a fait Hellboy.
Oui, alors a priori, comme ça peut paraître, même Labyrinthe de Pan, parce que ça peut paraître un peu, on peut avoir du mal à voir les liens, en plus déjà le simple fait qu'il passe de petites productions à blockbuster. Mais je crois que quand on regarde bien, finalement, tous ces films, ils sont toujours estampillés Guillermo del Toro, il y a toujours une marque de son cinéma toujours très sombre, hein, ça c'est évident, qui puisse passer de la culture populaire à celle des comics, aussi bien de Marvel, mais aussi aux symbolistes européens du 19e, etc. Tout ça a créé une marque indélébile. Et aussi, évidemment, c'est quelqu'un, au-delà d'être un très grand nihiliste, quelque part, c'est une espèce de nihiliste qui utilise aussi l'humour, enfin, qui réfère à l'humour, etc. Et quelqu'un qui, encore une fois, a inventé un espèce comme ça de cinéma, oui, c'est ça, entre du Goya, du film de Catcher, vampirique, d'Hellboy, et en même temps avec des messages assez politiques, il peut parler en même temps de la guerre d'Espagne et autres, et tout ça, finalement, même si ça peut paraître un peu un espèce de gros globi-bouga comme ça, sud-américain, bah finalement, ça crée vraiment une œuvre, enfin, il y a vraiment un discours derrière tout ça, et puis surtout une très grande force cinématographique.
Donc, il est indéniable que ce cinéma espagnol rencontre un franc succès, donc teinté de réussite formelle. Alors, ce qui est intéressant là à développer, c'est que en France, on a également des réalisateurs talentueux. On va y revenir là dans quelques minutes. Mais par contre, ce qui semble justement marquer la différence entre ce succès du cinéma espagnol, qui va vraiment remplir les salles en Espagne et puis également en France, donc il a beaucoup de facilité à s'exporter ce cinéma, c'est peut-être à l'origine le public. Et avec Yves Montmeilleur, on revient sur ce public espagnol très particulier, très engagé. Très engagé,
oui, ça,
sur le cinéma.
Encore une fois, le premier choc quand j'ai fréquenté ces festivals en Espagne, c'est de voir cette émulsion comme ça entre les gens qui faisaient un nouveau cinéma et leur public, quoi. C'était les mêmes. D'autant plus que tous ces réalisateurs étaient avant à leur place. C'était des gens qui étaient spectateurs des films qui passaient précédemment. Donc, ce qui d'ailleurs leur a donné une très grande force dans leurs films, c'est de connaître exactement tous les ressorts et de prévoir les réactions que puisse avoir un public, c'est-à-dire devant le cinéma de genre, sans en faire quelque chose de mécanique ou à telle scène, voilà comment les gens vont réagir, etc. Mais il est vrai que même étant spectateur de tout ce cinéma de genre, etc., ils arrivaient très facilement à en reproduire les effets et autres. Donc, et puis encore une fois, contrairement à d'autres pays, il faut le dire quand même, où le cinéma de genre s'est imposé plus comme un effet de mode qu'autre chose, les spectateurs espagnols n'ont pas eu l'impression d'être utilisés, enfin d'être blousés, en fait, en disant bien c'est des gens qui viennent de notre, entre guillemets, de notre milieu, enfin qui sont comme nous, qui ont un vrai plaisir de faire du cinéma de genre. Donc il n'y avait d'emblée aucune barrière qui les séparait. Et c'est vrai qu'il suffit d'assister à des séances, par exemple de la semaine de la terreur à Saint-Sébastien. C'est littéralement un déchaînement de gremlins dans la salle, où parfois, effectivement, comme je montre dans mon documentaire, le spectacle est plus dans la salle que sur l'écran. Et que parfois aussi ça leur cause des soucis, parce que c'est vrai que s'il y a un film qui va pas leur plaire, plus mal reçu, ça va être d'emblée pendant la projection que ça va se produire. Enfin, c'est les colibets, les sifflets et autres. Donc voilà, encore une fois, on peut pas tricher avec ces spectateurs qui sont vraiment, enfin, qui ont des réactions physiologiques. C'est vraiment, j'ai pas vu ça vraiment ailleurs. Donc ça les a obligés, pour ceux qui voulaient continuer dans la voie du genre, à accepter ce principe et surtout à développer vraiment des ressorts qui satisfassent leur public.
Et voilà, donc on en arrive. Oui.
Oui, tout le monde avait fait la nuit blanche.
Lui, il n'y a pas assisté, mais moi, c'était le cas.
Hein. Il était là avec sa femme, donc on comprend tout de suite.
Ouais. Non, je me suis fait quelque chose quand même assez croustillant, à savoir que je suis sorti de cette nuit en enfer vers à peu près 6h, 7h du mat. Et j'avais cet entretien, donc cette interview à... c'était quoi? C'était midi, je ne sais plus. Bon,
c'était, et moi, j'aurais bien aimé un reportage même sur toi. Enfin, comment on se prépare pour une nuit en enfer, c'est-à-dire voir 5 films de suite comme ça.
On sort du boulot à 22h.
Oui, en plus, c'est ça. Je travaillais jusqu'à 22h30.
Voilà, c'est ça. C'est...
Donc, ça avait été assez... Mais très, très bien. D'ailleurs, cette salle était complètement pleine pour cette nuit en enfer.
Au début, au moins.
Au début, alors, elle fait quoi? Elle fait 500 places, à peu près, je pense, la salle Rabelais. Mmh. Bon, elle était complètement... complètement rempli. Là, quand moi je suis arrivé en plein milieu de c'était le jour de la bête, j'ai pas pu m'asseoir, donc j'ai regardé une heure de film debout. Et puis par la suite, sur les deux films qu'on suivit, donc Mes chers voisins et puis 800 balles, la salle s'est à peine dégraissée, quoi. Voilà, il y a que pour Perdita Durango que là, peut-être on s'est retrouvé à 250, mais encore 250 à 5h du mat, c'était quand même assez énorme. Et alors, d'ailleurs, Perdita Durango, qui pour moi est de loin le meilleur film de la sélection. C'était d'ailleurs très intéressant de le mettre en dernier, pour la bonne et simple raison qu'il est assez virulent, il y a un rythme assez costaud, et là, justement, on se retrouve un petit peu à deux deniers... Oula. Quelqu'un peut
s'endormir.
Voilà, s'endormir. Eh bien, là, d'un seul coup, on se retrouve à nouveau happé par ce cinéma de la Iglesia.
Ouais, ben, c'est vrai que cette année, la sélection de Iglesia, c'était peut-être pas mal aussi, parce que d'habitude, Les Nuits en Enfer, c'est plus du cinéma bis italien ou espagnol. Moi, j'avais assisté à la nuit Jess Franco, et c'est vrai que vers 4h du matin, quand ils nous sortent Vampiros Lesbos ou Yor, le guerrier des étoiles.
Donc un mélange de vampires voilà. Et de lesbiennes. Hein,
oui, bah, c'est ça, Jess Franco. Ouais. Mais on a tendance à s'endormir peut-être plus facilement que devant De la Iglesia, qui doit quand même maintenir le spectateur en éveil assez facilement.
Alors, c'est aussi un truc très intéressant. Très intéressant donc, de cette programmation, c'était qu'il y avait vraiment un éclectisme, qui donc à l'image de l'éclectisme d'Iglesia, qui est aussi un bonhomme qui aime faire des trucs personnels et donc embrasser de nouveaux genres. Il a commencé vraiment dans le cinéma fantastique, Iglesia. Il a d'ailleurs fait son dernier, qui est Mon cher voisin. Non, excusez-moi, c'est L'enfant.
C'était le crime Farpé.
Oxford. C'est celui juste avant, en fait. C'est la chambre du fils, voilà. Où il revient un peu sur le genre horrifique, mais sinon, il a fait vraiment plein de trucs différents.
Alors, on rappelle que par rapport au sommaire, on avait indiqué qu'on parlerait de la Iglesia, mais ce sera la semaine prochaine.
Voilà,
c'est pour dire qu'on est très très en retard.
Je finis quand même sur ce cinéma français, parce que ça, de la même manière, j'en ai parlé avec Yves Montmeilleur qui. Cinéphile accompli dans le genre, s'intéresse aussi au cinéma français. Cinéma français donc qui existe et qui est assez performant. On en a discuté un petit peu.
Il y a quelques réalisateurs français qui arrivent malgré tout, ça s'observe, à réaliser des films assez intéressants. Je pense à Pascal Laugier par exemple. Il y a aussi le Belge Fabrice Duvels qui fait des choses assez intéressantes. Mais force est de constater que en France, c'est très difficile de réaliser des films de genre. Alors, à la fin de votre documentaire, il y a un petit message qui est quand même distillé, qui est assez intéressant. Je crois que c'est Guillermo del Toro qui le dit. Où, en comparaison du cinéma espagnol, il y a l'ouverture sur le cinéma français et le souhait que le cinéma français puisse un jour connaître cette espèce d'expansion. Elle n'est pas d'actualité, cette expansion.
Et non, mais c'est pas faute de réalisateur, mais c'est tout simplement la production qui ne suit pas, qui n'a jamais donné de crédit au cinéma de genre. En France, c'est vrai que le cinéma de genre, c'est de la sous-culture. Alors qu'en Espagne, on ne parle pas de genre mineur ou de genre majeur. La preuve, c'est que ces films de genre s'imposent auprès du grand public et c'est les plus gros scores du box-office espagnol. En France, on a peur du genre. Quand je dis « on », c'est évidemment les producteurs, ceux qui voient les télés ou autres, ceux qui financent. Je pense qu'il y a effectivement des réalisateurs de genre vraiment intéressants. Vous les avez mentionnés comme Pascal Laugier, Fabrice Duvels et autres. Mais quand ils ont la possibilité de faire des films, c'est évidemment avec des budgets rikiki. En plus, ils vont être très mal exposés, les films sont très mal sortis et autres. Ce qui fait qu'il va y avoir un espèce de gros manque de cohésion d'entre eux, de créer un peu une vague, un terreau commun, comme on l'a vu ailleurs, et que quand ils arrivent, certains d'entre eux, à faire des films, un premier film ou autre, ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller aux États-Unis, tout simplement parce qu'il y a le rêve de dire au moins là-bas le genre est pris au sérieux et je quitte la France et je vais m'en tirer. Ce qu'on, encore une fois, qu'on constate pas ailleurs, puisque les Espagnols n'ont pas besoin d'aller aux États-Unis, puisqu'ici ils ont tout ce qu'il faut pour faire des films, ils ont l'argent et le public. Et donc, du coup, tout ça, il y a effectivement une scène, mais qui est démantelée. Et effectivement, cette phrase que vous citez de Guillermo del Toro le dit bien d'une manière ironique, c'est tant que on prendra pas au sérieux en France, par exemple, le cinéma de genre, ça sera relégué à du sous underground, et qu'il n'a pas en fait l'occasion de s'exposer, alors qu'il y a des vrais talents, ça c'est évident. En même temps, je ne veux pas être totalement pessimiste, parce que là, on l'a vu dans le cadre justement du dernier festival de CGS ou ailleurs, tout le monde parle, à l'étranger d'ailleurs, d'un nouveau cinéma fantastique et d'horreur français, absolument excitant, enfin vraiment... dont on a envie de voir la suite. Les films de Pascal Laugier, de la bande d'intérieur, j'ai oublié leur prénom, les tout nouveaux venus. En plus, ils me posent tous la question, disant, qu'est-ce qui se passe en France ? C'est incroyable, tous ces nouveaux réalisateurs, ces films d'horreur qui sont très durs.
Martyr.
Très très durs, qui sont d'une violence extrême, si on les compare à la violence parfois graphique, des plus graphiques, ou jouant sur l'angoisse des autres cinématographies de genre. Pour moi, si ces films sont plus durs d'un point de vue de cette violence exacerbée, c'est tout simplement parce que je crois que c'est cette rage de ces réalisateurs qui ont extrêmement de mal à s'exprimer et à faire ces films qui est aussi présente. C'est aussi une réaction contre tous les bâtons dans les roues qu'on leur met pour pouvoir voilà, donner naissance à leurs films. Et toujours est-il qu'effectivement, le cinéma français, là, depuis 3 ans, commence à se faire connaître. Le public étranger, on veut en voir plus. Maintenant, reste à voir si, enfin, des producteurs ou autres en France vont le comprendre et vont accompagner cette génération-là, comme ça s'est passé en Espagne.
Voilà, donc c'est la fin de cette autopsie du cinéma espagnol. Viva la Muerte, c'est donc le documentaire d'Yves Montmeilleur. Je vous invite à le découvrir lorsqu'il sortira en DVD, hein, vraisemblablement. C'est très intéressant. Ça permet vraiment aux profanes de se faire vraiment une idée sur ce cinéma fantastique espagnol, et puis aux connaisseurs, eh bien, voilà, quoi, de se faire caresser dans le sens du poil, en tout cas celui de leur passion. Voilà, c'est fini.
C'est fini, mais c'était bien. Et donc, la semaine prochaine, Alex de la Iglesia, parce qu'il était présent au Cinémède, et c'est vrai que c'était une présence remarquée, et il n'a pas arrêté de faire le pitre, d'ailleurs, pendant la remise des prix. On passe à un tout autre film. Alors là, c'est juste un avant-goût. J'avais prévu, moi aussi, du long, mais finalement, comme le film sort la semaine prochaine, ce film à l'origine de Xavier Giannoli, eh bien, ça va être juste une mise en bouche. Et donc, on va juste parler bien de l'origine de ce film. C'est un fait divers. C'est l'histoire de Philippe Bert, qui est un escroc et qui a réussi à construire une autoroute. Il a fait 2 kilomètres d'autoroute entre Le Mans et Tours. Voilà, il a réussi à tromper son monde. Enfin, c'est même le principe même de l'escroc. Donc, eh bien, Xavier Giannoli, alors ça, c'est une histoire qui s'est passée il y a 12 ans. Xavier Giannoli lit ce fait divers et est complètement subjugué par cette histoire. Et donc, il a tenu à en faire plutôt une fiction, ne pas suivre exactement les faits comme aurait pu faire un documentariste. On l'écoute parler de ce dépassement du fait divers.
Je ne vais pas au cinéma pour lire les journaux. Je ne veux pas qu'on parle de mon film, je ne voudrais pas qu'on parle de mon film comme on peut parler des films de Ken Loach ou tout ça, comme un film social. Tout mon travail, une fois que j'ai eu la réalité des faits, ça a été d'en faire un film de cinéma et de proposer aux gens de venir voir un travail de cinéma qui va exprimer quelque chose de la réalité d'une histoire vraie. Bon. Et les choses dont vous parlez, le portrait des personnages qu'ils expriment du monde dans lequel on vit, moi c'est quelque chose auquel je ne réfléchis pas. C'est quelque chose que je ressens vraiment. Et que certains commentateurs, certains critiques, ça me touche. Hein, ils voient quelque chose du monde dans lequel on vit qui s'exprime d'une façon forte. Je sais plus quel metteur en scène disait, quand j'ai un message à faire passer, je le mets à la poste. Moi je pense pas à ça quand je fais le film. Moi quand je fais le film, je pense au scénario, je pense au personnage, je pense à la musique, je pense au rythme, je pense au metteur en scène que j'admire, et je pense à cet extraordinaire fait divers, et je me dis, il faut que j'en fasse un film.
Alors voilà, le réalisateur était présent au Cinémède et il a dit quelque chose de très intéressant quand il a présenté le film au public. Il a commencé à rentrer dans les détails un peu de lui, son esthétisme et de ce qu'il voulait fabriquer. Et il a dit, je pense que je peux me permettre parce que je suis dans un festival de cinéma où on est censé parler cinéma. Et donc, on replonge un peu dans cette description à lui, dans ce qu'il a voulu faire de ce film, où il s'est retrouvé finalement dans le mimétisme en embarquant l'équipe dans une aventure comparable à celle du personnage.
À l'origine, il y a un désir d'un certain cinéma qui est que moi, comme spectateur, je ressens à l'écran quand les images ont une force, quand les images sont l'expression d'une nécessité très puissante d'un metteur en scène et d'une équipe. Je le sens dans... Je sais pas, ça se sent au cinéma quand c'est pas un truc formaté où on sent un coup de production, quoi. Bon. Et que je me suis dit... pour qu'on ressente ça, il faut se jeter dans une aventure. Il faut que j'embarque toute une équipe, des financiers. Au fond, ce qu'il a fait lui, embarquer toute une région. Moi, j'ai embarqué toute une production, toute une équipe dans une aventure. J'aimais bien l'idée de faire quelque chose qui sorte des codes, qui sorte des normes de production du cinéma, et qu'on allait qu'on allait vivre une aventure, qu'il allait falloir avoir de l'enthousiasme, qu'il allait falloir trouver ce qu'il y a dans le film au fond, que tout le monde y croit. Et je me disais, si ça marche sur le tournage, le spectateur ressentira à l'écran cette idée de à la fois d'une course-poursuite et de la recherche d'une émotion, d'une humanité. Voilà, ça habitera l'écran.
Et c'est plutôt réussi, hein. Alors, oui. Beaucoup de problèmes de tournage. Il devait tourner dans la région où le fait divers s'était déroulé, c'est-à-dire autour du Mans. Donc, il y a un grand constructeur d'autoroute qui avait donné son accord, mais 2 mois avant le tournage, il dit ben non, c'est plus possible. Donc, il se retrouve le bec dans l'eau, hein. Là, Xavier Giannoli explique que Depardieu, qui fait partie du casting, a dit écoute, Xavier, je vais commencer à appeler des gens. Donc, ils ont commencé à appeler des gens, effectivement, dans le Nord, où Xavier Giannoli avait envie de tourner pour des questions de paysage, parce que ça lui fait penser aux plaines du western avec la pluie en plus. Et donc ils ont trouvé un loueur de camions de chantier qui s'est dit bah oui, moi je te suis, je trouve ça intéressant, voilà. Et c'est comme ça que ça a pu se faire. Donc c'est des rencontres un peu hasardeuses. Alors on termine juste pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine. Il a parlé de la question de la forme, du rythme, mais il y avait aussi la question de la compréhension du personnage. Alors un personnage que le réalisateur a préféré ne pas trop embellir, contextualisé un peu socialement avec femme et enfant. C'est pourquoi il a coupé 20 minutes depuis qu'il a projeté son film, parce qu'il était en sélection officielle à Cannes. On l'écoute bien parler de cette coupure.
J'avais envie, depuis le départ, d'avoir une certaine forme de radicalité sur et le film et le personnage. Je voulais que le film ne soit pas formaté. Je voulais que le film ait quelque chose d'un peu hors norme. Et du coup, de commencer d'une façon plus sèche et abrupte avec cet homme sur les routes dont on ne sait rien, c'était un gros risque. Et je n'ai pu le prendre que quand j'ai senti l'amour que les gens avaient pour le film, en fait. L'amour, c'est un mot un peu fort, mais que le film avait touché les gens qui l'avaient vu. Voilà, et ça m'a donné beaucoup confiance et dans le personnage, dans les enjeux de l'histoire. Et du coup, il y avait des éléments où on voyait des choses de son passé au début. C'était pas des flashbacks, mais on comprenait des choses de son passé. Et je me suis dit, allons droit au cœur de la situation. Et l'émotion se déplacera sur les gens qu'il rencontre uniquement dans cette ville. Et c'était plus pur comme ligne. Mais dès qu'on fait un choix d'aller vers quelque chose d'essentiel de l'histoire, il faut avoir confiance. Puis vous savez, hein, tout ça est absurde, puisque le film est aujourd'hui exactement son premier scénario.
Voilà, donc c'est Xavier Giannoli qui a beaucoup à dire, hein, sur son film, beaucoup à dire sur le cinéma et comment on fabrique un film et un univers. Donc la suite de l'interview sera la semaine prochaine avec celle d'Emmanuel DeVos, hein, qui figure au casting, qui joue un rôle plutôt déterminant, puisque c'est une histoire d'une femme qui révèle un escroc, et cet escroc qui est là simplement pour faire de l'argent va décider donc de construire cette autoroute et finalement de donner de l'optimisme et du boulot surtout aux gens de la région qui n'attendaient que ça. Sachant que c'est François Cluzet aussi qui interprète cet escroc de manière admirable.
Oui, excellent duo, quoi. Les
voilà. Et la semaine prochaine, vous entendrez pourquoi il a choisi François Cluzet. Ça aussi, ça me semble important de savoir pourquoi les réalisateurs finalement prennent tel type et pas un autre quand c'est pas le producteur qui leur dit « Coco, tu vas prendre ça, celui-ci, parce que sinon je te finance pas le film ».
Oui, ça je crois. Là, c'était pas le cas. Il faut le dire à personne, ça.
Donc, à l'origine, ne sortira que le 11 novembre, donc allez voir d'abord le film d'Alain René, et puis ensuite, à partir du 11 novembre, vous pourrez voir À l'origine, qui pour moi est un vrai film de cinéma.
Ouais, c'est un très bon film français qui marque la différence. Il y a les acteurs, il y a l'image qui est très belle, il a aussi une manière de filmer quelque chose d'assez primaire, je dirais, de ses personnages. Il multiplie des gros plans où on voit la fatigue de ses protagonistes. Ouais, et puis après voilà, il y a tout ce contexte humain, ces personnes qui sont un petit peu désœuvrées et qui trouvent l'espoir à travers cet escroc, qui vont
vraiment
espérer
puis s'emballer.
Il va catalyser tout un tas d'espoir. Les gens vont réussir à avoir des enfants, enfin vous verrez. Voilà, c'est un film intéressant. On passe vite à l'actu, Martin. Quoique t'es pas prêt. Hein.
Non, mais si, très rapidement, je rappelle juste les rencontres Combat et Liberté autour du cinéma documentaire. Ça démarrait hier, mais ça continue jusqu'à dimanche. Donc pour ceux qui nous attrapent pendant la rediffusion, vous avez encore 3 films. Sinon, il y a également un autre événement à signaler. Il y a Armand Gatti qui est présent sur Montpellier actuellement pour une rétrospective de tous ses films. Donc Armand Gatti, c'est le réalisateur de L'Enclos, de Nous étions tous des noms d'arbres. C'est un dramaturge, surtout, quelqu'un qui a travaillé entre autres avec Peter Watkins, avec Chris Marker. Ce sont des films assez rares qui méritent sans doute d'être vus. Moi, je ne connais pas bien la filmographie de Gatti, pour ne pas dire pas du tout. Donc voilà, ça c'est dès demain. Alors dès aujourd'hui, il y a une lecture par Armand Gatti d'un poème scénario. À partir de demain, vous avez la rétrospective qui commence au Centre Rabelais avec un film à 15h, un film à 19h. Un autre à 21h30 et également vendredi aux mêmes horaires, toujours au Centre Rabelais.
C'est organisé par qui ? On peut renvoyer sur un site internet puisqu'on a...
Alors c'est en partenariat avec l'association Idéo Kilogramme. Donc pour ceux qui ont entendu le tout au poste de tout à l'heure, vous deviez avoir toutes les infos. Sinon, il y a une adresse internet, ideokilogramme@gmail.com. Ça c'est un contact pour joindre l'association. Et puis un téléphone, donc 0467 95 06 47.
Et si vous voulez réécouter le Tous au Poste pour ceux qui nous écoutent en direct, eh bien ce sera à partir de 17h30, 17h40 pour 17h20, merci Bruno, donc pour écouter cette rétrospective Gatti. Voilà, si vous nous écoutez pour la rediffusion, ça va être plus compliqué pour tout ce qu'on vous a dit, notamment le festival de documentaires, mais vous allez vous en sortir. C'est ainsi que s'achève Cinérama un peu rapidement. On n'a pas parlé de tout ce qu'on avait voulu, mais on a fait ce gros pâté le cinéma fantastique espagnol.
C'est bien de finalement faire moins que prévu. Ça prouve qu'il y a du travail.
Effectivement,
on croit à la valeur du travail, Divergence.
N'empêche que la semaine prochaine, on revient avec une partie du sommaire d'aujourd'hui, puisqu'il y aura des La Iglesia, plus la suite de À l'origine. Et toi, Martin,
je vais devoir bosser cette semaine.
Voilà, je ne sais pas à quelle heure aura lieu la rediffusion. Je crois que c'est samedi 14h30, mais on ne m'a pas averti. Voilà.
Merci Bruno.
Merci Bruno à la technique.
Oui, parce que là, je t'ai demandé aussi beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup.
Et un petit bonjour à Martine que j'ai croisée pendant le Festival Méditerranéen de loin, mais que je n'ai pas pu saluer. Voilà.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la fin du générique, comme toujours, un dialogue de film. Comme François Cluzet joue dans le film À l'origine, j'ai choisi François Cluzet dans Les Apprentis, un des grands films de Salvadori que j'apprécie.
Je vais me coucher.
Non ? Eh, oh ! Je te rappelle qu'on est censé partager le fric. Je te rappelle que ça fait 3 fois que je paye le téléphone et l'électricité.
C'est moi qui ramène la bouffe.
Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques.
Et alors ?
On bouffe que ce qui rentre dans tes poches. Hein ? Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends ? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois ! T'as compris ?
Cinérama.
Je te préviens, va falloir que tu trouves du fric !
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.